ça vous dit d'aller boire un verre?
Non, on écoute, vous êtes libre ce soir.
Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission de Vous êtes libre ce soir sur Radio Béton 93.6. Dans cette nouvelle émission, nous allons parler des évolutions récentes du web. Tout d'abord au travers de l'évolution des standards du web, et puis également d'un navigateur internet libre qui est le très connu Firefox. On peut déjà se demander pourquoi parler de normes techniques. Les standards du web sont avant tout des spécifications qui concernent avant tout des informaticiens pour qu'ils programment leur site web. Alors pourquoi en parler à une heure de grande écoute et sur une radio grand public, on va dire? Parce que les normes du web sont très importantes pour que le web soit un espace ouvert où chacun peut y accéder de manière égale, quel que soit son matériel, qu'il utilise un PC, un téléphone portable et quels que soient les logiciels par lesquels il accède à l'Internet. Déjà, pour illustrer l'intérêt des standards du web, on peut revenir au bon vieux temps de la guerre des navigateurs, c'est-à-dire à la fin des années 90, les navigateurs web étaient quasiment au nombre de deux. Il y avait le navigateur Netscape Communicator, édité par la société Netscape, le navigateur Internet Explorer de Microsoft, qui était livré dans Windows. Et donc, ces deux navigateurs se sont fait la guerre pendant quelques années, on va dire de 95 à 2003 quasiment. Tous ces deux navigateurs rivalisaient de nouvelles fonctionnalités. Ah tiens, moi je sais faire ça. Ah non, moi je sais faire ça, c'est différent, mais c'est encore plus fort. Toutes ces évolutions n'étaient pas standards, elles étaient propres à chaque navigateur. Et donc, les auteurs de sites web étaient obligés de modifier leur site web pour prendre en compte les particularités d'Internet Explorer, les particularités de Netscape. On va dire qu'il y avait deux camps, ou plutôt trois. Il y avait les partisans de Microsoft, les partisans de Netscape, et ceux qui étaient non alignés, mais qui pouvaient pas faire grand-chose. Le fait d'avoir fait un petit peu ses normes, chacun dans son coin, et sans avoir vraiment respecté les normes du web qui existaient déjà à l'époque, faisait qu'il y avait un Internet à plusieurs vitesses. Si on en arrivait comme ça à fragmenter le web en plusieurs vitesses, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de normes, elles existaient, c'est simplement que ces deux entreprises que j'ai citées ne les respectaient pas du tout. Pourtant, les normes existaient, elles étaient déjà définies depuis plusieurs années par ce qu'on appelle le W3C, World Wide Web Consortium, qui est un rassemblement de plusieurs laboratoires universitaires, donc des informaticiens qui décident de ce qu'on pourra mettre dans le web. Donc cet organisme est formé par déjà le MIT, un établissement américain, l'INRIA, un institut de recherche en informatique et automatique français, et aussi par un laboratoire universitaire japonais. Ce consortium discute des normes qui seront ensuite utilisées sur le web, comme le langage HTML qui décrit les pages web, comme CSS, le langage pour décrire la mise en forme des pages web, ou bien d'autres choses dont on ne détaillera pas tous les aspects techniques. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que le web est basé sur des normes qui sont connues, qui sont publiques. Pourquoi en parler maintenant? Parce que ces normes ont évolué au fil du temps. Ces derniers temps, ces normes ont connu un grand bond en avant, on va dire, à cause de certaines spécifications que les intimes appellent CSS3 ou HTML5. Ce n'est pas vraiment le but de cette émission de rentrer dans les détails. Mais en tout cas, ces choses-là nous apportent pas mal d'évolutions majeures dans ce que le web peut faire. Donc on va voir des choses arriver dans nos navigateurs. Certes, les technologies du web sont déjà avancées, elles permettent de faire des choses assez amusantes, assez belles, assez dynamiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les nouvelles normes vont nous apporter des trucs complètement hallucinants. Quelque chose qu'on utilise sur notre blog de l'émission, velcs.info, c'est une fonctionnalité pour lire des pistes audio directement avec le navigateur, alors que normalement ce genre de choses est géré par le lecteur flash. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lecteur Flash, c'est pas du tout un standard du web. C'est un logiciel propriétaire édité par Adobe, un éditeur américain. Et le gros désavantage de Flash, c'est qu'on est dépendant d'un éditeur. Autre désavantage, c'est que le Flash a tendance à être très peu fiable. Il paraît que 75% des crashs dans Firefox sont dus à Flash. Et puis, ce logiciel fonctionne très diversement selon les plateformes. Il y a pas mal de plateformes mobiles où Flash n'existe pas du tout. Donc voilà, si vous avez votre portable, ça vous sert à rien de venir sur ce site parce qu'il fonctionne avec Flash. Et puis, selon aussi les systèmes d'exploitation sur PC, on peut dire que Windows est plutôt bien supporté, alors que les utilisateurs de Mac ou de Linux ont toujours tendance à se plaindre parce que Flash marche assez mal sur leur système. Donc, on a l'audio intégré directement dans le navigateur, la vidéo aussi. On verra aussi apparaître l'animation 3D directement dans le navigateur. C'est géré par une nouvelle norme qui s'appelle WebGL, qui est un croisement du web et de technologies 3D utilisées pour les jeux vidéo. Donc on peut déjà sur le web jouer à Quake 2, ou plutôt son portage sur la plateforme web. Ça s'exécute directement dans le navigateur. Les autres normes permettent également de faire des animations dans le navigateur, sans passer par Flash. Ce sera beaucoup plus léger et sans doute moins source de petits plantages, on va dire. Et finalement, on verra aussi des fonctionnalités de géolocalisation. Pour la transition, la plupart de ces nouveautés peuvent se retrouver dans la version 4 de Firefox, dont nous allons parler après un petit peu de musique. Comme on aime la musique bizarre sur Vous êtes libre ce soir, on va passer de la musique bizarre des morceaux de Seb Cachotte, un groupe qui se définit lui-même comme faisant de la mécanique metal disco. Le morceau choisi a pour titre Carpe Diem. On va juste en passer les 3 premières minutes parce que le morceau est vraiment long.
Ici la vie quotidienne de jeunes prostituées fonctionnelles. Une maison close dans une petite ville. La déshérence intérieure d'une femme rigide. Mais aussi les vicissitudes sentimentales d'un homme obsédé par l'image d'une porte. Subtile peinture des sentiments et des sensations dans l'illusion de cristal, la poésie et la palette colorée des saisons. Des tours inquiétantes et de passions étranges. Le pourvoyeur de cadavres. Oui, on peut manger végétarien et savoureux, et équilibré tous les jours, sans se compliquer la vie. Tout est conçu pour pallier au manque de temps, au manque d'idées, et pour exploiter au mieux les réfrigérateurs. Auteur d'une dizaine de livres, la cuisine végétarienne. Une collection de fiches recettes et responsable de magasins de produits naturels. Mais c'est bon. Et c'est ainsi que tout commence, et c'est ainsi que tout finit.
Courez bonne les jambes, mais vous arrêtez surtout pas net. Sûr que vous ne supporteriez ce qui s'est passé hier. L'instant n'est aussitôt péri. Le vivre en crée la durée. L'histoire en fait de sel. Hier appartient désormais plus qu'à vos cervelles. Quel est ce besoin de l'ensevelir sous des selles? Poussez les uns les autres pour ne pas vous faire écraser par le passé. Gravez votre nom dans le futur pour mener à la postérité. Sillez la névrose comme alibi dans un monde où la vie elle-même est psychiatrie.
Carpe diem, 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 carpe diem
c'était le groupe Sepp Kashot. De leur album De l'existence de la mythologie chrétienne en celtique, on sent un petit peu la bizarrerie dans ce titre. Cet album est sous licence Art Libre. On a dit que Firefox 4, c'est la prochaine version à sortir du navigateur de la fondation Mozilla. Ce navigateur web déjà intègre toutes les nouvelles technologies du web les plus à la pointe, que vous pouvez déjà tester. Si on a dit qu'il n'est pas encore sorti, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour l'instant. Il n'est pas sorti officiellement, mais la fondation Mozilla le donne en téléchargement, en version bêta. Ça sert à faire des tests, à vérifier que ça marche bien, mais je peux vous dire que depuis 3 mois que je l'utilise, ça marche plutôt bien. Mais bon, c'est un petit peu en même temps la politique de Mozilla de ne sortir leurs produits que quand ils sont vraiment prêts. Et on peut se dire que, en attendant des mois et des mois pour que la version finale sorte, à la fin on aura vraiment quelque chose de stable. Mais n'empêche que ça bouge, même si les versions sont très longues à sortir. Et d'ailleurs, ce qu'on peut voir dans Mozilla Firefox 4, c'est déjà la refonte complète de l'interface graphique. On voit dans les navigateurs les plus récents disparaître déjà la barre de menu, puisqu'on veut économiser de la place verticalement pour avoir le plus possible de place pour le contenu, pour la page. Donc, exit la barre de menu. Ce qu'on peut trouver, par contre, en haut à gauche, c'est un petit menu unique et assez simplifié qui permet d'accéder à des choses comme enregistrer la page, comme trouver les options du navigateur. Après, il y a encore des améliorations dans la gestion des onglets, point pour lequel Firefox est assez populaire. La grande innovation de cette version, c'est que les onglets, on peut les grouper. Je m'explique. En haut à droite de l'interface, on a un petit bouton où on accède ensuite à une interface où on a des groupes d'onglets. Normalement, au départ, vous en avez un. Mais vous pouvez catégoriser vos onglets en les faisant glisser dans des petites boîtes. Au départ, cette chose-là, ça me paraissait assez bizarre. Le fait de catégoriser ces onglets, au départ, ça demande un peu d'effort, un peu d'adaptation. Mais au final, sachant que maintenant on s'amuse à avoir au moins 10 pages ouvertes en même temps dans le navigateur, c'est bien de pouvoir s'organiser en mettant d'un côté sa messagerie, de l'autre côté des recherches qu'on fait, d'un autre côté le fait d'écouter de la musique sur un autre site. Et finalement, c'est assez pratique pour s'organiser, et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, l'organisation des onglets en catégories. Autre nouveauté sur les onglets qui m'est assez pratique, puisque j'ai l'habitude d'avoir toujours au moins 2 pages allumées qui sont ma messagerie perso et aussi ma messagerie professionnelle, donc c'est des choses que je veux toujours avoir sous la main. Le navigateur permet justement d'épingler les onglets, comme ça on les met de côté, ils sont bien mis en évidence à gauche de la barre d'onglets, avec des petites icônes, et ça permet toujours d'avoir les pages importantes à portée de main. Ces derniers temps, on peut dire que la grande course est lancée entre les éditeurs de navigateurs. Pour les performances, c'est moi qui ai le rendu des pages le plus rapide. Non, c'est moi, t'as vu sur tel test, j'ai fait mieux que toi. En ce moment, c'est vraiment la frénésie au niveau de la vitesse des navigateurs, et c'est tant mieux pour nous, puisqu'on peut se permettre d'utiliser le web de manière intensive. Et en même temps, les développeurs web peuvent faire aussi des applications un peu plus complexes. Donc Firefox a pas mal d'améliorations de performance par rapport aux versions précédentes. Bon, il y a certes des navigateurs qui font un peu mieux dans certains points, mais Firefox se défend très bien sur les performances. Autre chose que personnellement j'apprécie énormément, c'est aussi un truc très pratique, c'est la synchronisation de son Firefox sur différentes machines. Dans la vie réelle, on ne se contente pas d'accéder au web juste par son ordinateur personnel chez soi, mais aussi par sa machine professionnelle, aussi par son téléphone portable. Cette fonctionnalité de synchronisation permet de garder toutes vos données personnelles, que ce soit l'historique de navigation, vos mots de passe, également vos marque-pages. Donc, je peux retrouver toutes mes données personnelles si je consulte Firefox sur mon ordinateur portable, sur mon téléphone, et même, je sais pas, pourquoi pas chez quelqu'un d'autre, si je configure ça, je peux arriver à retrouver tout. Pour conclure, je vous encourage à tester cette nouvelle version Firefox 4 et à bientôt pour une nouvelle émission de Vous êtes libre ce soir.